RFI, grand reportage, Laurence Adou.
L'éolien offshore, un nouveau souffle pour l'industrie allemande. L'Allemagne est en pleine transition énergétique. Depuis que le gouvernement a décidé d'abandonner le nucléaire, le pays mise maintenant de plus en plus, plus que jamais, sur les énergies renouvelables. Elles doivent fournir 55% d'électricité d'ici 2035. Alors ce pari audacieux favorise le développement des éoliennes, sur terre mais aussi en mer. Dans le nord de l'Allemagne, le vent souffle fort. C'est une source d'énergie précieuse. Son exploitation a fait naître loin des côtes d'immenses parcs éolien en mer au fil des vagues. Alors l'État soutient ces installations avec des aides généreuses et de cette volonté politique profite toute une région fortement touchée par la crise des chantiers navals. La ville-État de Brême et son port ont retrouvé une nouvelle activité industrielle, j'allais dire un nouveau souffle. Grand reportage signé Harim Lippold que l'on retrouve pour en parler dans un quart d'heure.
Nous sommes à Bremerhaven, une ville située à l'embouchure de la Weser qui s'écoule ici dans la mer du Nord. Longtemps, ce port a vécu au rythme de la pêche et de la construction navale. Mais dans les années 80, les chantiers ont fermé les uns après les autres. Les pêcheurs ont fait faillite. Après la chute du mur, les militaires de la base américaine ont quitté les lieux. Le coup de grâce pour l'économie locale. Un habitant sur quatre s'est retrouvé au chômage. La ville s'est vidée. Confronté à ce déclin industriel et social, le gouvernement régional a décidé de lancer un nouveau chantier, l'éolien offshore. Martin Güttner, ministre de l'économie de la ville-État de Brême.
Lorsque les chantiers navals qui avaient assuré à beaucoup de gens un emploi se sont effondrés, les énergies renouvelables n'étaient pas vraiment au centre de notre préoccupation. On ne s'était pas posé la question, faut-il se mettre au vert, produire des énergies propres, embrasser la transition énergétique, etc. Donc pour nous, la priorité, c'était de retrouver un emploi pour les ouvriers des anciens chantiers, car ils étaient très bien qualifiés. À ce moment-là, l'éolien offshore commençait à se développer dans la région, donc nous avons pris le train en marche. Et cela nous paraissait logique. Nous avons pu offrir une main-d'œuvre compétente, qui était alors au chômage. Nous bénéficions en plus de l'infrastructure pour installer les éoliennes en mer. Et nous pouvions compter sur d'excellents centres de recherche. Et voilà, on a finalement créé une dynamique autour de tous ces atouts.
Tous les partis politiques ont soutenu ce projet, se souvient Rita Kellner-Stoll. Cette ancienne haute fonctionnaire de la ville de Brême faisait partie du groupe de travail qui a promu la nouvelle branche d'énergie au sein du ministère de l'Environnement.
À mon avis, le consensus politique était essentiel pour faire démarrer l'activité des éoliennes offshore. À l'époque, nous, les hauts fonctionnaires de l'administration de Brême, avons développé le projet. Mais sans le soutien des partis politiques, toute orientation confondue, ces idées n'auraient pas pu être réalisées ou alors seulement en partie. C'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Quel que soit le parti politique qui était aux commandes, ils ont tous fait avancer le projet. Toutes les lois concernant l'énergie éolienne en mer ont été votées à l'unanimité au Parlement régional.
En 10 ans, Bremerhaven a mis en place tout un pôle industriel pour fabriquer, tester, embarquer et installer ces géants de la mer. Un choix finalement logique, estime Norbert Giese, vice-président chez Senvion, un constructeur d'éoliens offshore.
En Allemagne, on fait de l'éolien offshore parce que les capacités sur Terre sont limitées. Il nous manque la place pour installer des turbines censées fournir de l'électricité à 82 millions de personnes. Autre atout de l'offshore, en mer, le vent souffle plus fort et il est plus régulier, ce qui augmente l'efficacité des turbines. Nos éoliennes en mer tournent pendant 4500 heures par an à plein régime. À titre de comparaison, une éolienne terrestre ne peut atteindre que la moitié, à savoir 2000 heures par an maximum. Nous avons donc du vent, nous avons des eaux peu profondes et un sol marin qui facilite l'installation d'une turbine. Franchement, si les Allemands ne profitaient pas du vent de la mer du Nord, c'est un peu comme si les Saoudiens renonçaient à extraire du pétrole.
Nicht machen würde. Das wäre, als wenn die Saudis ihr Öl nicht rauspumpen würden.
Le nouveau souffle industriel a changé le visage de la ville. Des PME et des start-up se sont installés dans le vieux port entre les docks et les chantiers, créant un drôle de patchwork architectural. Rita Kellner-Stoll.
Pour se rendre compte du changement qu'a connu cet endroit, il suffit de regarder ce bâtiment en face, construit en briques rouges. Avant, il servait de criée. Après la Seconde Guerre mondiale, Bremerhaven a été le plus grand port de pêche européen. Bon, tout ça, c'est du passé. Et aujourd'hui, ce bâtiment abrite un centre de formation pour les emplois dans l'énergie éolienne offshore.
Plus d'une centaine d'entreprises et d'institutions travaillent aujourd'hui dans le secteur de l'énergie offshore. Comment la ville a-t-elle réussi à séduire les investisseurs? Le ministre de l'économie, Martin Günther.
Si une entreprise vous dit « voilà, je veux m'implanter chez vous », tout le monde est d'abord très content. Mais si après, cette entreprise vous annonce « ah oui, mais en fait, il faut qu'on installe une grande turbine sur le site pour tester la stabilité du socle, le fonctionnement du moteur et des pales », là, cela devient un peu plus compliqué. Beaucoup de municipalités hésitent alors à accueillir l'entreprise. Nous, nous avons pu offrir les sites nécessaires pour tester les éoliennes. Vous les voyez surtout au nord de Bremerhaven, il forme un collier.
Nous nous rendons sur le site pour visiter un de ces prototypes. Il appartient à la société française Areva. L'éolienne est imposante avec son diamètre de 116 mètres. Avec une capacité de 5 mégawatts, elle peut fournir l'électricité à 5000 ménages. Le maintien des éoliennes offshore coûte cher. Les turbines se trouvent à des dizaines de kilomètres de la côte. Pour assurer leur bon fonctionnement, Areva a mis en place le contrôle à distance. L'ingénieur Carsten Thiel fait partie de l'équipe chargée de surveiller toutes les éoliennes d'Areva.
En cas de dysfonctionnement, je regarderai d'abord sur les écrans. S'il y avait un problème, disons, avec le moteur ou avec l'hydraulique, je pourrais intervenir manuellement. Et dans la plupart des cas, je peux déjà résoudre le problème. Si ce n'est pas le cas, je préviens mes collègues sur place et leur demande d'intervenir. Ce qui veut dire qu'il faut se déplacer en bateau ou en hélicoptère. Voilà ce que nous faisons ici.
Ce pilotage à distance est fondamental, ne serait-ce que pour maîtriser les coûts, explique Eric Blanc, directeur d'Adven, un groupe récemment créé par Areva et l'Espagnol Gamesa.
Quand vous êtes à terre, si vous envoyez votre technicien pour faire une réparation et qu'il lui manque une pièce, bon, la camionnette va suivre, quoi, hein. Si le type il est à 80 km ou 100 km au large et qu'il est tout seul ou avec son équipe sur son éolienne et qu'il lui manque une pièce, bah, c'est un désastre. Vous perdez une journée le temps qu'un hélicoptère arrive ou qu'une vedette arrive. Donc tous les défauts d'organisation offshore ont des coûts X fois ceux que l'on connaît onshore.
Pour l'instant, Areva fait fonctionner 126 éoliennes. D'autres installations sont prévues. Avec son nouveau partenaire Areva, voie plus large, bientôt une machine de 8 MW va sortir de l'usine. Ces pales auront un diamètre de 180 mètres. C'est deux fois l'envergure d'un Airbus A380. Eric Blanc le reconnaît volontiers. Bremerhaven est un site idéal pour développer ce genre de projet ambitieux.
Bremerhaven, la force de Bremerhaven, c'est toute son infrastructure. C'est-à-dire qu'en fait, toute la ville est mobilisée. On a encore notre banc de test pour les nacelles. Mais là, Bremerhaven a investi dans un énorme banc de test polyvalent. Et puis alors, il y a une autre chose qui se passe et qui devra se passer en France, c'est le développement des compétences flexibles. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un milieu qui travaille comme le milieu gaz autrefois offshore. Hein, donc, il y a des sociétés de services. Et ces sociétés de services ont des techniciens spécialisés qui vont soutenir les projets en fonction. C'est-à-dire, nous, on ne peut pas se permettre, avec nos carnets de commandes qui sont encore un petit peu fluctuants, on ne peut pas se permettre d'avoir des staffs complets. Dans ce pays, à Brême en particulier, vous trouvez des gens dont le métier est vraiment de partir toute l'année, travailler en offshore pour un client qui peut être un jour Siemens, le lendemain Vestas et puis aujourd'hui Adven.
Les entreprises du secteur éolien ne bénéficient pas seulement de la compétence des ouvriers. La recherche, financée en partie par l'État, s'est aussi mise au service de cette nouvelle activité. C'est le cas du très réputé Institut Fraunhofer. Sa spécialité, les tests d'usure des pales du rotor, la partie tournante de la machine. Le banc d'essai se trouve dans un grand hangar. Certains pales de rotor peuvent atteindre une longueur de 70 mètres, la plus grande structure composite au monde. Avant d'être monté sur la tête de la turbine, il faut s'assurer de sa durabilité. Exposée à la corrosion et au sel, une pale doit être assez robuste pour pouvoir fonctionner durant 25 ans. Les essais commencent avec une séance de torture à échelle réduite, explique le professeur Andreas Reuter.
Ce que vous voyez là, ce n'est qu'une partie de la pale de rotor. Nous testons la fiabilité des joints de collage. Avant de construire une pale entière, nous effectuons d'abord les tests sur une partie de cette pale, spécialement conçue à cet égard. Sinon, ce serait trop cher. Il vaut mieux tester d'abord une partie, voir si ça marche, et ensuite on construit la pale en entier. Ce test nous permet de vérifier si les nouveaux joints de collage fonctionnent ou pas.
Si les résultats sont positifs, l'Institut donne le feu vert pour la construction de la pale qui sera ensuite testée à grande échelle. Parallèlement aux banques d'essais, l'Institut Fraunhofer poursuit ses recherches pour améliorer la durabilité des rotors.
Nous avons intérêt à pousser toujours plus loin nos recherches dans ce domaine, car nous nous sommes fixés un objectif ambitieux, assurer 30% de nos revenus en monnayant notre expertise. Pour vous donner une idée, nous facturons le banc d'essai pour une petite pale entre 400 et 500 000 euros. Et pour le test de fiabilité d'une grande pale, il faut compter 1 million d'euros.
On l'aura compris, l'éolien offshore est une technologie de pointe très onéreuse. Les coûts de production, d'installation et de maintenance sont 4 fois supérieurs à ceux des turbines terrestres. En plus, le marché mondial pour l'éolien en mer se limite pour l'instant à l'Europe du Nord, ce qui réduit la possibilité de production à grande échelle et donc la réduction du coût. L'investissement dans ces moulins à vent modernes est-il donc un projet digne de Don Quichotte ? Le chercheur Dimitri Pessia.
On a en vis-à-vis d'autres technologies qui sont plus compétitives aujourd'hui, notamment le photovoltaïque et l'éolien terrestre. Et c'est dans ce sens-là qu'en termes purement économiques, alors c'est vrai que l'offshore permet l'utilisation de régimes venteux plus forts, il permet une production plus stable, donc il y a certains avantages, mais le coût comparatif ne me paraît pas forcément légitimer ou justifier le besoin de recourir à ces technologies aujourd'hui à grande échelle. Bon, par contre, il y a des enjeux industriels importants et donc de structurer une filière tel que c'est le cas ici à Bremerhaven, autour d'un pôle de compétences locales, de développer des emplois. Ça me paraît un vrai objectif industriel, mais moins un objectif de politique énergétique nationale.
À entendre certains chefs d'entreprise, nous sommes effectivement loin de l'enthousiasme qui a marqué le lancement de cette nouvelle branche d'énergie. Son activité s'est ralentie à Bremerhaven. Plusieurs entreprises du secteur ont déjà fait faillite. L'année dernière, la française Areva a dû mettre une partie de ses salariés en chômage partiel. Ce n'est que depuis janvier 2015 que les carnets de commandes se remplissent à nouveau. Les entrepreneurs attendent à présent du gouvernement des garanties, notamment sur la stabilité du prix d'électricité. Norbert Guise de la société Senvion.
Moi, j'ai déjà eu affaire à une ministre de l'Environnement social-démocrate, deux ministres conservateurs de la CDU et deux ministres verts. Tous étaient sur la même longueur d'onde quand il s'agissait de développer l'activité des éoliennes offshore à Bremerhaven. Ça, c'est vraiment un atout parce que nous, les entreprises, on a besoin de cette continuité politique. Si chaque nouveau gouvernement changeait les règles du jeu, on deviendrait fou. Le gouvernement fédéral, en votant une nouvelle loi énergétique, nous a enfin donné un cadre légal jusqu'à 2019. Mais cela veut dire aussi que compte tenu de nos délais de planification, il faut déjà commencer à discuter la suite avec les responsables politiques.
D'ici 2030, le gouvernement allemand veut augmenter la production des éoliennes offshore et passer de 630 MW à 15 000 MW. De quoi assurer l'avenir pour de nombreuses PME de la région, comme celle de Norbert Henschen. Ce passionné de l'énergie verte développe entre autres des logiciels pour les éoliennes. Ingénieur de formation, ancien militant de la Friedensbewegung, le mouvement pacifiste des années 70, il se souvient encore de la première éolienne qu'il a fabriquée, c'était en France, sur le plateau du Larzac.
Un ami m'avait raconté ce qui se passait sur le Larzac, cette lutte des paysans contre l'extension d'un camp militaire. Pour les obliger à partir, les autorités leur ont coupé l'eau et l'électricité. Nous nous sommes rendus sur place et avons eu l'idée d'aider ces paysans en leur fournissant de l'énergie grâce à une éolienne. Avec d'autres jeunes, j'ai construit la petite turbine à Darmstadt où j'étais étudiant. Nous l'avons transportée sur le plateau du Larzac. Elle a servi à recharger des batteries pour assurer l'éclairage.
Grâce à des ingénieurs militants comme Norbert Henschen, l'énergie éolienne a le vent en poupe. C'est la pièce maîtresse de la transition énergétique, la fameuse Energiewende en Allemagne. Le gouvernement s'est fixé un objectif ambitieux. D'ici 2035, plus de la moitié de la production énergétique doit provenir des sources renouvelables. Dimitri Pessia.
Oui, il y a déjà 25% d'énergie renouvelable en Allemagne et l'Allemagne a une feuille de route des objectifs industriels, des objectifs énergétiques et je pense qu'elle a tous les moyens pour faire de cette transition énergétique un succès, notamment parce qu'il y a eu des vraies ruptures technologiques et donc aujourd'hui on ne parle plus uniquement d'un choix utopiste d'écolo vert, on parle d'il y a une vraie rationalité économique derrière.
De cette révolution verte en cours, Bremerhaven se veut un précurseur. La ville demande aux entreprises de s'engager pour le développement durable. En 2009, un musée dédié au climat a ouvert ses portes, une initiative unique en Allemagne. L'objectif de cette exposition multimédia, sensibiliser le public aux conséquences du changement climatique. L'éolien offshore, un nouveau souffle pour l'industrie allemande. Un grand reportage d'Armie Polt, réalisation Eva Monchinski.
Leopold, bonjour.
Bonjour Laurent.
Vous êtes l'auteur de ce grand reportage. Vous avez rapporté ce témoignage extraordinaire du nord de l'Allemagne où les éoliennes, ces turbines géantes, font désormais partie du paysage.
Oui, absolument, Laurent. Impossible d'ignorer que cette région est passée aux énergies vertes. Ces éoliennes, dont la taille ne fait qu'augmenter, poussent effectivement un peu partout en Allemagne du Nord. Au grand dam, d'ailleurs, de certains riverains qui protestent parfois contre l'extension des parcs éoliens. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle les éoliennes offshore ont été installées à 100 km de distance des côtes. L'autre raison, Laurent, c'est que la mer proche de la côte, que l'on appelle la mer des Waden, le Wattenmeer en allemand, eh bien, c'est un écosystème riche et très fragile, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il n'est donc pas question d'abîmer ce parc national marin. D'où l'obligation d'installer les éoliennes loin de la côte. C'est plus coûteux, certes, mais l'avantage, c'est que le vent y souffle plus fort. La turbine peut donc produire plus d'électricité.
Ah, donc les éoliennes en mer sont-elles plus efficaces?
Oui, absolument, Laurent. Vous savez, un des défis que pose la fameuse transition énergétique, c'est d'assurer la consommation de l'industrie qui a des gros besoins en énergie et qui doit être sûre d'avoir toujours de l'électricité disponible. L'inconvénient, vous savez, des panneaux solaires, c'est que, eh bien, quand il pleut, bah, voilà, la production de l'électricité chute, ça marche moins bien. Donc, on n'a pas encore trouvé de solution satisfaisante pour stocker l'énergie. Par contre, un parc éolien offshore, et là on parle, vous savez, de 50 à 80 turbines, eh bien, ce parc est capable de produire de l'énergie d'une manière constante.
Alors donc, faut-il s'imaginer que la mer du Nord sera bientôt envahie de moulins géants?
Je vous rassure, non.
C'est parfois pas très joli quand même.
Oui, absolument. Et puis, c'est une technologie qui coûte très très cher et qui n'est pas encore, d'un point de vue financier, rentable, en tout cas pour les opérateurs de réseau. Alors, les investisseurs sont légèrement optimistes, je dirais. Ils espèrent surtout que la nouvelle loi sur les énergies renouvelables, votée par le Bundestag l'an dernier, relance cette activité. À Bremerhaven, en tout cas, cette ville portuaire qui s'est réinventée après la crise des chantiers navals, certains ont peur que la stratégie qui consistait à tout miser sur l'éolien en mer se solde par un échec. Personne ne veut effectivement revivre la crise des années 80. À l'époque, vous savez, le taux de chômage atteignait 25%. Aujourd'hui, il est à 14%, ce qui est encore deux fois plus élevé que la moyenne nationale. Les autorités locales le reconnaissent d'ailleurs, l'industrie éolienne offshore a permis de créer des emplois très qualifiés, mais cette relance économique n'a pas profité aux chômeurs de longue date, sans diplôme supérieur, et qui ont toujours du mal à trouver un emploi.
Ce sera le mot de la fin. Grand reportage à réécouter sur
RFI.fr.
Harry Blibold, merci, bonne journée sous les embruns marins portés par les vents bienveillants.
Tous les jours, Accent d'Europe vous propose